Vera Bush.
Au Nord Kivu, un groupe de travail permanent mis sur pied ce dimanche par le Rwanda et la RDC pour faire le suivi et la surveillance de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi signée par les deux gouvernements. Dans la même province, le haut commissaire des Nations Unies chargé des réfugiés appelle les belligérants dans les conflits à ne pas recruter les enfants dans leur rang. Le patron du HCR l'a dit ce matin au cours d'un point de presse. Et puis le gouverneur de la province de l'Équateur, José Makila, appelle lui la population à ne plus prendre place à bord d'un bateau surchargé. C'était aussi lors d'un point de presse tenu hier dans sa résidence officielle. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, le haut commissaire des Nations Unies chargé des réfugiés appelle les belligérants dans les conflits au Nord Kivu à ne pas recruter les enfants dans leur rang. Le patron du HCR l'a dit ce matin au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à Goma. Antonio Guterres a par ailleurs qualifié d'inacceptable la présence des éléments armés dans les camps des déplacés ainsi que le travail forcé soumis aux déplacés. On l'écoute au micro de Sifa Maguru.
Nous faisons un plaidoyer en tant qu'humanitaire pour la paix. La paix, c'est une condition essentielle pour arrêter cette tragédie. Et en même temps, nous travaillons avec les autorités pour essayer d'améliorer l'assistance aux personnes déplacées. J'ai un message pour tout le monde. Nous voulons garantir le caractère civil humanitaire des camps. La présence d'éléments armés dans les camps est une présence qui n'est pas acceptable. Le recrutement des enfants, le travail forcé des déplacés dans l'appui aux groupes armés ou à l'armée elle-même, les violations des droits des personnes par des éléments armés, qui que ce soit, c'est inacceptable et nous plaidons envers tout le monde pour garantir les droits des personnes.
Selon le HCR, au moins 800 000 personnes sont déplacées dans le Nord Kivu et le Rwanda abrite près de 48 000 réfugiés congolais. Restons encore au Nord Kivu où des échanges des tirs sont signalés depuis ce matin à Kiroche, à quelques kilomètres de Sake en direction de Minova au nord-ouest de Goma. Ces tirs opposent depuis hier après-midi les Mai Mai basés dans ce secteur aux insurgés du CNDP selon une ONG locale œuvrant sur place. Toujours selon la même source, le camp des infirmiers de l'hôpital général de référence de Kiroche était aussi pillé par les insurgés. Depuis hier soir, la population de Kiroche et Chacha fait le déplacement vers Minova et Bweremana. Le commandant de la 8e région militaire affirme que les insurgés ont attaqué un bataillon Mai Mai qui était à Kiroche et des unités phares d'essai étaient envoyées pour les remplacer. Le général Mayala confirme aussi que les phares d'essai contrôlent déjà ce secteur. Contactez le CNDP confirme qu'il y a eu échange des tirs entre les insurgés et les Mai Mai sans donner plus de détails. Toujours à Goma, dans le Nord Kivu, le Rwanda et la RDC ont convenu ce dimanche de la mise sur pied d'une task force, un groupe de travail permanent. Ce groupe de travail sera basé à Goma. Il est chargé de faire le suivi et la surveillance de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi signée par les gouvernements des deux pays le 9 novembre dernier. Par la déclaration de Nairobi, le Rwanda et la RDC s'engageaient à lutter ensemble pour éradiquer la menace qui pèse sur la paix et la sécurité des deux pays et de toute la région des Grands Lacs, menace causée par les ex-phares Interahamwe rwandais et d'autres groupes armés qui opèrent dans l'est de la RDC. Jungalawamona.
Le groupe de travail permanent va opérer dès la semaine prochaine à partir de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, province en proie à une insécurité persistante. Selon l'accord de Nairobi, la RDC a déjà présenté un plan visant à traquer tous les groupes rebelles présents sur son sol, notamment les rebelles Hutu rwandais FDLR Interahamwe et le groupe du général dissident Laurent Kunda. Comment le Rwanda apprécie-t-il les efforts du gouvernement congolais dans la mise en œuvre des accords de Nairobi? Richard Saint-Zibera, envoyé spécial du président rwandais Paul Kagame dans la région des Grands Lacs, chef de la délégation du Rwanda à la réunion de l'hôtel Yussi à Goma.
Le Rwanda soutient le gouvernement démocratiquement élu, qui est le seul gouvernement sur le sol congolais. Il y a des problèmes qui donnent prétexte à déjà qui troublent la paix en RDC. Des uns sont des problèmes à l'intérieur de la RDC, des autres sont causés par les ex-phares Interahamwe. Et quand ces problèmes subsistent, il y a toujours des gens qui voient là-dessus une justification de leurs activités.
Outre le Rwanda et la RDC, le groupe de travail permanent de Goma comprend également les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la Conférence internationale sur les Grands Lacs, l'Afrique du Sud et les États-Unis. Tous les participants ont réitéré leur appui au gouvernement de la RDC pour la restauration totale de l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Goma, Jules Ngala, Radio Okapi.
279 rescapés et 12 corps repêchés, c'est le bilan officiel du naufrage du bateau Mbeli Pamboli dimanche dernier sur le fleuve Congo dans le district de la Mongala à l'Équateur. Cette information est livrée par le gouverneur de l'Équateur, José Makila, lors d'un point de presse tenu dans sa résidence officielle aussitôt arrivé samedi à Mbandaka. Il a par la même occasion appelé la population à ne plus prendre place à bord d'un bateau surchargé. Il le dit au micro de région.
Je demande à la population de ne pas prendre place à bord de bateaux qui est déjà rempli. Quand on voit que l'étiage ne peut plus permettre à ce qu'on puisse charger sur la cargaison, que la population ne prenne plus place à bord des bateaux, parce qu'ils ne peuvent pas mettre leur vie en péril à cause de quoi que ce soit. La responsabilité de la force navale qui prend place de commissaire fluvial et des agents de la DGM. Parce que si nous avons connu ces cas de naufrage, la responsabilité, elle est unique. Elle est incombée aux agents de la force navale, notamment les capitaines en poste à l'Issala. Et en ce moment-ci, il est sous le verrou, il est à l'auditorat militaire. Donc je demande aux militaires de la force navale de ne pas faire l'office commissaire fluvial ni de la direction générale de migration.
24 heures après la publication de l'arrêté provincial interdisant la coupe des bois sur toute l'étendue du Katanga, deux camions chargés de grumes étaient arrêtés hier par le gouverneur de province sur la route de Kasenga. De leur côté, les exploitants de bois se plaignent du manque des mesures d'accompagnement et d'un temps suffisant de sensibilisation. C'est également le point de vue des défenseurs des droits de l'homme qui craignent l'ouverture de la voie par décision à une tracasserie de la population. On écoute Golden Misabi, président provincial de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, au micro de Donat Chimboj.
Toutes les mesures qui visent à protéger ces arbres que moi je protège doivent être bien encadrées, bien suivies pour éviter que d'autres personnes puissent en profiter pour tracasser la population qui a eu l'autorisation pour couper un arbre. Et là, c'est ça mon inquiétude. Lorsqu'on empêche de fabriquer le charbon, à la base, c'est de la destruction des arbres. Il faut alors que on puisse trouver un autre moyen de chauffage. Et c'est là qu'il faudrait encourager à tout prix tout le monde puisse avoir accès à l'électricité, par exemple.
Contacter le coordonnateur provincial de l'environnement au Katanga affirme que ses services poursuivent des enquêtes pour vérifier si effectivement le propriétaire des grumes arrêté détient une autorisation de coupe de bois. Au Kasai occidental, le ministre provincial de l'éducation initie un contrôle dans les écoles pour mettre fin à l'exigence des frais non reconnus par l'État. La mesure pointe du doigt les inspecteurs et préfets. Elle était communiquée aux chefs de division et autres responsables scolaires lors d'une réunion tenue ce week-end. Le ministre s'est dit préoccupé des doléances des parents et élèves finalistes et envisage des sanctions pour les coupables. Des détails avec André Kambala.
Ce contrôle débute lundi dans chaque école. Il sera dirigé par le chef de division ou le chef de sous-division. Selon le ministre provincial de l'éducation, il s'agira de dénoncer les inspecteurs qui marchandent les contrôles des dossiers des finalistes. D'après lui, des inspecteurs exigent 2000 francs congolais par élève pour l'étude du dossier et 5000 francs à l'élève dont l'un des bulletins manque la signature du professeur à l'issue de la deuxième session. Les préfets sont quant à eux accusés de faire fi à l'arrêté du ministre national de l'EPSP. Arrêté d'après lequel le ministre Makaire Mongou-Famba autorise la réadmission gratuite des finalistes malheureux de l'année scolaire 2006-2007. Le ministre provincial s'est dit indigné que la plupart des préfets exigent de ces élèves les sommes allant de 50 à 100 dollars américains pour les réadmettre. Déterminé à mettre fin à cette situation, le ministre Ali Doron Benguele confirme qu'à la fin de ses contrôles, tous les auteurs de ces actes subiront la rigueur de la loi. Mais la plupart des préfets que nous avons joints disent ne pas être informé de l'arrêté du ministre national de l'EPSP. Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Au sud Kivu, début de l'opération de saisie des véhicules avec plaques d'immatriculation frauduleuses et ceux sans plaques à Bukavu. Opération déclenchée la semaine dernière par la Direction provinciale des impôts. Par la même occasion, la DGI Sud Kivu annonce des mesures disciplinaires contre certains de ses agents impliqués dans la vente officieuse des plaques. Les propriétaires de ces véhicules pensent plutôt que la DGI veut leur faire payer deux fois les mêmes documents. Didas Namujimbo.
Plus de 350 véhicules sont concernés par ce bouclage débuté mercredi à Bukavu et effectué avec la police spéciale de roulage. La direction des impôts exige que leurs propriétaires payent les taxes dues à l'État en achetant les vraies plaques, ceux qu'ils possèdent étant faux parce qu'achetés auprès des tiers sans passer par le service compétent. Ce qui n'est pas l'avis de certaines victimes qui déclarent avoir acheté les plaques en bonne et due forme et dans les installations même de la DGI.
Moi-même j'ai acheté ma plaque et tous les documents à la DGI. J'ai payé et on m'a livré les documents, c'était en septembre. Aujourd'hui, on m'arrête pour que j'achète à nouveau les mêmes documents. C'est du vol. Les autorités de la DGI doivent savoir gérer leurs propres services.
Contacté, le directeur de la DGI note que les agents concernés, puisqu'il y en a, ont déjà été punis selon les normes internes à la matière. Aussi, il interpelle les contribuables, mais que dans l'entretemps, l'État doit recouvrer ses droits. Robert Mbarushimana.
Il y a des véhicules qui circulent avec des plaques obtenues de manière frauduleuse au sein de nos services. Nous avons constaté qu'il y avait effectivement des plaques qui avaient disparu de nos stocks. Les plaques ont été vendues et le compte de trésor n'a jamais été alimenté. Tout contribuable, il suit la procédure et il paye, c'est vérifiable. Par contre, il y a des contribuables qui payent des plaques à domicile, ce n'est pas comme ça qu'on paye l'impôt.
En attendant donc la fin de cette opération en fin de semaine, la DGI note que la plupart des propriétaires concernés ont déjà régularisé leur cas en gardant les mêmes plaques. Didas Namujimbo, Bukavu, Radio Okapi.
En province orientale, sensibilisation des députés provinciaux sur l'importance des droits économiques et sociaux. Ceci doit être au centre de leurs préoccupations au profit de la population. Cette sensibilisation a eu lieu du 15 au 16 de ce mois. Ce séminaire, organisé à Kisangani par le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en collaboration avec la section droits de l'homme de la MONUC, s'inscrit dans le cadre du programme appelé Action 2, initié par les Nations Unies pour les réformes des institutions nationales. Idrissa Oumar Kane, directeur adjoint du bureau de HCDH en RDC, explique le bien fondé de cette session de formation au micro de Aliana Alipanagama.
L'approche basée sur les droits permet de donner une certaine cohérence à l'activité de l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire qu'au lieu tout simplement de cibler les besoins, on doit mettre l'accent sur les droits. Je prends un exemple. Lorsque l'exécutif provincial propose le budget, le soumet à l'Assemblée provinciale, il faut que les députés se posent la question de savoir est-ce que le droit à la santé est pris en considération, le droit à l'éducation, le droit à l'accès à l'eau potable, le droit à un logement décent. Aujourd'hui, malheureusement, des femmes enceintes qui accouchent sont prises en otage dans les cliniques médicales. Les parents prennent en charge les enseignants, il n'y a pas d'accès aux services sociaux de base, l'eau, l'électricité, tout cela, l'Assemblée provinciale doit contrôler l'activité de l'exécutif provincial.
Retour à Goma avant de boucler complètement ce journal où la population devra désormais accéder à l'information publique. C'est ce qui ressort d'une série d'échanges initiés depuis vendredi par IFES, une organisation internationale d'éducation civique. Selon les responsables de cette organisation, plusieurs stratégies sont mises en place pour atteindre cette population. Il s'agit entre autres de l'affichage des thèmes sur des sujets d'actualité, des rencontres d'échanges et autre cadre d'expression. C'est là en vue de faciliter l'accès de tous les citoyens à l'information publique. Maître Jean-Paul Lumbu, l'un des responsables de IFES, joint par Sifa Maguru.
L'information publique fait actuellement l'apanage des seules autorités politiques. Je prends par exemple le cas des décisions ou encore des lois, des édits qui sont votés au niveau de l'Assemblée provinciale ou encore des décisions ou arrêts qui peuvent être pris par le gouverneur de la province. Alors que ces décisions vont devoir s'appliquer à tous les citoyens, nous avons remarqué que ces décisions restent dans le bureau de ceux qui les ont signées ou de ceux qui les ont votées. Nous pensons que les citoyens citoyens doivent avoir accès au contenu de ces documents, nous nous sommes résolus de mettre sur pied un certain nombre de stratégies pour faciliter à tous les citoyens de la province d'avoir accès facile à ces documents, de pouvoir s'imprégner du contenu de ces documents afin de se rendre compte des prévisions du gouvernement.
Notons que ces activités sont inscrites dans le cadre du nouveau programme de bonne gouvernance et anticorruption de cette ONG. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est terminé. Au nom de Thérèse Kankou et Guy Manzangou, nous vous disons merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Radio Okapi.